sujet de discussion.
Bienvenue à toutes et à tous à cette table ronde intitulée « Jeunesse et VIH, comprendre, prévenir et agir ». Aujourd'hui, nous allons aborder un enjeu majeur de santé publique, la vulnérabilité des jeunes, particulièrement ceux âgés de 15 à 24 ans, face au VIH-SIDA en Côte d'Ivoire et des IST également. Cette tranche d'âge représente, on l'a su récemment, une part importante des nouvelles infections, principalement transmises par voie sexuelle, ce qui fait de cette problématique un défi crucial pour notre société, la société ivoirienne. Et pour ce, nous sommes en compagnie d'experts avec lesquels nous allons échanger et on va leur permettre à tour de rôle de se présenter. Bonjour docteur Taï.
Bonjour, je suis docteur Taï, chef de service des infections sexuellement transmissibles au programme national de lutte contre le sida.
Et nous sommes également avec madame Ouattara.
Bonjour madame, je suis madame Ouattara, épouse Kouakou. Je suis ingénieure santé publique, assistante au service de prise en charge au PNSUSAGE, programme national de santé scolaire et santé universitaire, santé des adolescents et jeunes.
Alors, nous avons déjà touché le point, hein, le terme de ce jour, c'est agir, comprendre, prévenir et agir. Et on parlera aujourd'hui de la jeunesse avec, face au VIH-SIDA en Côte d'Ivoire. Et la toute première question sera celle attribuée à l'expert que vous êtes, docteur Taï. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi aujourd'hui on parle de notre jeunesse, surtout celle de 15 à 24 ans, qui sont particulièrement vulnérables face au VIH?
La vulnérabilité de cette tranche d'âge part du fait qu'elle se renouvelle en fonction de l'évolution de l'âge. Donc, quand nous avons les 15-24 ans qui sont fixes, mais les personnes qui transitent par cette tranche d'âge-là se renouvellent à chaque fois. Mmh. Donc, celui qui a 15 ans, qui est entre les 15-24 ans, il y a un an de cela, l'année qui suit, il n'est plus. Donc, compte tenu du fait que cette tranche d'âge est renouvelée, mmh. et malheureusement, avant qu'elle n'atteigne cette tranche d'âge de 15-24 ans, elle n'est pas exposée au message de sensibilisation, d'où leur vulnérabilité. Il est aussi important aussi de relever le volet psychologique, le volet psychologique même de cette adolescence jeune qui est un facteur favorisant à leur vulnérabilité. Donc il y a le fait qu'elle soit non exposée à nos messages de sensibilisation, et puis le fait que à cause de leur formation psychologique, cela induit à ce qu'elle et ça donne à prendre des risques énormes, d'où leur vulnérabilité. Voilà.
Alors, vous avez parlé de vulnérabilité, on va parler également aussi de transmission. Quelles sont ces transmissions les plus courantes de ces jeunes-là? Comment est-ce que ça se passe?
En matière de VIH, comme les infections sexuellement transmises, nous avons trois voies de transmission. La voie sexuelle, la voie sanguine et la transmission mère-enfant. Mais on fait le constat que chez les adolescents jeunes, la transmission, même de façon générale par rapport au VIH, la transmission est surtout par voie sexuelle. En d'autres termes, ces adolescents jeunes qui, à la découverte du sexe, ont des tendances à vouloir à prendre beaucoup de risques.
Oui.
Risques pourquoi? Parce qu'ils ont une mauvaise perception du risque même. Pour elles, par exemple, en matière de VIH et des IST, nous pouvons avoir des personnes qui sont porteuses de la maladie et qui sont asymptomatiques. Donc, qui n'ont aucun signe de maladie sur elles, mais elles sont porteuses du virus. Donc, les jeunes, par exemple, mis sur le visuel. Donc, le fait de te savoir en excellente bonne santé pour elle, vous n'êtes pas porteuse d'une maladie, alors que c'est ça le grand risque. Donc, la précocité de ces rapports sexuels-là induit à ce que les mesures ne soient pas prises et puis voilà, elle s'expose énormément. Donc, c'est pour nous, au sein du programme national de lutte contre le sida, un défi pour nous de pouvoir garantir la bonne santé des adolescents jeunes vis-à-vis du VIH et des infections sexuellement transmissibles.
Quel est l'état actuel de l'épidémie du VIH chez les jeunes dans notre pays?
Bon, au niveau national, l'épidémie, est, selon le spectrum, l'épidémie est à 1,68%. La prévalence est à 1,68%. Les nouvelles infections sont estimées à autour de 8 000. Et les adolescentes jeunes femmes représentent pratiquement les 22%. 18%. Et quand on associe les adolescents avec les jeunes garçons, nous retrouvons à 22%. Donc, c'est quand même énorme en termes de nouvelles infections attendues.
Est-ce qu'il y a une région qui est particulièrement, on va dire, qui est celle la plus touchée?
En matière de prévalence, oui, il y a la zone d'Abidjan. Bon, cela s'explique par la densité de la population. Mais concernant les adolescents jeunes, comme ils sont de façon répartie, de façon homogène dans tout le pays, mmh. on les prend dans leur globalité. Et donc, ils sont adolescents jeunes, donc ils sont vulnérables. Même si le nombre est moins concentré, mais ils sont quand même vulnérables. Mmh. Voilà.
Alors, ça. Avant de parler, on va dire de façon particulière de ces jeunes-là, est-ce qu'il y a des progrès médicaux aujourd'hui ou récemment dans la prévention et le traitement du VIH dans notre pays?
Les progrès en matière de VIH, oui, on a la prise en charge.
D'accord.
La prise en charge qu'aujourd'hui qui a été simplifiée. Avant, nous étions à 3 prises dans la journée.
De comprimés?
De comprimés, bien mm-hmm. sûr, dans le cadre de la prise en charge. Aujourd'hui, le traitement, c'est un comprimé par jour. Et donc, on l'assimile aujourd'hui aux maladies chroniques, comme la tension, comme le diabète, où vous devez prendre un médicament tous les matins pour pouvoir garantir votre santé. En matière de d'IST, les traitements étaient préalablement autour de 21 jours de traitement.
D'accord.
Donc, l'algorithme a été revu. Donc, le délai de prise en charge part de 48 heures à 6 jours de traitement.
Mmh.
Voilà. Donc, quand c'est vraiment assez long, c'est 6 jours. Quand c'est assez short, assez court, c'est au bout de 48 heures. Mmh. Voilà. Donc, ça peut dire qu'on a simplifié les choses. La prise en charge, on a revu les molécules qu'on utilise dans la prise en charge des infections sexuellement transmissibles, au point où leur efficacité est encore d'actualité, puisque les données de la surveillance disent que les antibiotiques que nous utilisons sont d'actualité, donc sont assez efficaces.
D'accord. Madame Alima, avec vous, quels sont les facteurs psychologiques et sociaux qui poussent aujourd'hui les enfants, selon vous, hein, les jeunes à adopter des comportements à risque vis-à-vis du VIH?
Merci, madame. Bon, il faut d'abord... Aujourd'hui, nous parlons d'une cible bien connue, mm-hmm. mais la cible, il faut quand même qu'on la définisse, qu'on
D'accord.
dise qui elle est.
Qui est, oui.
Parce que on attend partout adolescents jeunes, mais en réalité, on ne sait même pas qui ils sont et pourquoi est-ce qu'ils agissent ainsi. Nous avons défini l'adolescent comme une personne qui n'est plus un enfant, mais qui n'est pas un adulte aussi. Donc, vous voyez qu'il est au milieu.
C'est cela.
Mm-hmm. Donc, ils sont adolescents aussi. Bon, selon l'OMS, l'OMS a défini l'adolescent comme une personne qui a un âge qui part de 10 à 19 ans.
Mm-hmm.
Et aussi, les jeunes gens, l'OMS les a définis comme allant de 15 à 24 ans. Donc, le recoupement de ces deux tranches d'âge va donner la tranche d'âge de 10 à 24 ans, que nous allons appeler adolescents et jeunes.
Mm-hmm.
Donc, parlant des facteurs sociaux, je pense que le premier facteur social même, c'est peut-être la pauvreté. La pauvreté, parce que, comme Dr Taï l'a dit, les adolescents, ils sont repartis partout sur le territoire national.
D'accord.
Et quand nous savons qu'il y a des jeunes gens, quand ils arrivent dans des villes, les parents viennent, ils les déposent là et ils s'en vont. Surtout les jeunes filles. Ou bien on prend une maison, on lui dépose un sac de riz et puis on s'en va. La jeune fille, quand le sac de riz finit, qu'est-ce qu'elle fait? Quand l'argent finit, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle est livrée à elle-même. Dès que l'adolescence commence, ça commence à être des changements.
Oui.
Changements physiques, biologiques et psychologiques après. Donc, ces changements-là vont aboutir aussi à une maturation sexuelle. Et dès qu'il y a maturation sexuelle, le premier défi auquel ils sont confrontés, c'est la sexualité. Ils vont s'affirmer, ils vont demander leur autonomie et ils se livrent à la sexualité. Bien sûr, pour pouvoir combler les vides. Donc, voilà un peu.
Alors, comment la stigmatisation, parce qu'on en parle régulièrement, et les idées reçues influencent-elles le comportement de ces jeunes vis-à-vis, on va dire, de ces infections-là?
Oui. Alors, parlant de stigmatisation, en réalité, vous savez, c'est des jeunes, comme je l'ai dit, dès qu'ils sont à l'âge adolescent, ils ont déjà des prises de position.
D'accord.
Puisqu'il faut dire qu'il y a quelqu'un qui disait un jour comme ça que je ne sais pas pourquoi les enfants là-même ils sont comme ça, pourquoi les jeunes là ils sont comme ça. Mais il faut bien le comprendre. C'est un développement, comme on a appelé physique, biologique et psychologique.
C'est ça.
On a deux cortex au niveau du cerveau.
Mm-hmm.
Il y a la zone de l'amygdale cérébrale qui est postérieure, qui est mature dès l'adolescence, dès l'âge de 12 ans.
Pour la femme gourou du marché d'Adjamé, qu'est-ce qu'elle doit comprendre à travers ce que vous venez de dire?
Je veux comprendre que quand l'enfant est adolescent, ce qui lui permet de contrôler ses émotions et son comportement n'est pas encore mûr.
Voilà.
Ce qui lui permet de s'en jaillir entre guillemets, c'est cet élément-là qui est mûr. Donc l'enfant, lui, ne prévoit que le plaisir immédiat. Et dès que cet organe qui est mûr, là, accompagnée de maturité sexuelle, vous allez voir que la biologie et les hormones vont se déverser dans le sang.
C'est ça.
Et puis, dès que ces hormones se déversent dans le sang, ils vont baigner le cerveau émotionnel qui va inciter l'enfant ou bien stimuler l'enfant à s'affirmer, à vouloir qu'on le respecte, à vouloir dépasser les limites et voir au-delà des frontières. Donc voilà, psychologiquement, c'est un enfant qui est perturbé. Moi, j'appelle ça une zone de turbulence. Mmh. Donc, il s'adonne à des jeux, entre guillemets, peut-être pas bons, ce qui va l'exposer au VIH-SIDA également.
D'accord. Alors, docteur Tailly, est-ce que vous pensez aujourd'hui que les jeunes peuvent s'engager eux-mêmes dans cette lutte-là, à leur niveau? Et si oui, comment?
Il faudrait les responsabiliser.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire les mettre dans un contexte où on leur apprend que les adolescents leur font confiance et eux-mêmes doivent apprendre à se faire confiance. Mmh. Très souvent, comme ma collègue le disait, les adolescents ont envie de s'affirmer.
Oui.
Et très souvent, nous les parents, nous allons à l'encontre de leur envie. La preuve en est que quand vous avez votre enfant qui commence à côtoyer une jeune fille, bien un jeune garçon, le premier réflexe qu'on lui dit, si jamais elle tombe enceinte, tu vas voir. Aujourd'hui, les enfants ont développé d'autres comportements. Ils ont trouvé la parade,
oui,
celle d'utilisation de façon abusive les contraceptifs d'urgence. Parce que le papa, les parents leur auraient dit si elle tombe enceinte. Donc, la problématique des parents, c'est la grossesse. Donc, ils ont trouvé une parade, l'utilisation des contraceptifs d'urgence
de façon abusive. Les pilules du lendemain.
Les pilules du lendemain. Mmh. Voilà. Je ne suis pas contre les pilules du lendemain, mais c'est le constat qui est.
Mmh.
Donc, il faudrait qu'on apprenne nos enfants à être responsables, à prendre conscience du risque encouru et à prendre toutes les dispositions. Au fait, c'est le manque d'informations. Il est atteint un âge où il a besoin d'informations, surtout informations portant sur les modifications de son organisme.
Non,
les envies qu'il éprouve, mais qu'il n'arrive pas à converser avec quelqu'un.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, la technologie a tellement évolué que quand les parents s'abstiennent de parler de sexe à leur enfant, l'enfant va chercher sur Internet.
Oui.
Et quand alors que sur Internet, on n'a pas toujours la bonne information. Et il faudrait aussi que les parents aussi évitent de donner la moitié de la cola, comme on le dit,
mm-hmm,
en termes d'information à l'enfant. Il faudrait lui donner toute l'information, lui faire confiance et emmener l'enfant à faire un choix. De sorte qu'il fasse un choix éclairé et responsable. Maintenant qu'on sera derrière et on voudrait manipuler l'information pour orienter l'adolescent jeune dans un sens, forcément, avec l'avènement de la technologie, il va découvrir une autre facette de l'information que vous avez fait le choix de préserver et l'enfant n'aura plus confiance en vous. Donc, il est important, pour qu'on puisse atteindre les objectifs, de responsabiliser les adolescents jeunes. Donc, je pense qu'avec le ministère de l'Éducation, nous avons les clubs santé.
D'accord.
Dans les clubs santé, on parle de tout ce qui est VIH, on parle de tout ce qui est infection sexuellement transmissible. Tout ça pour amener l'enfant à être responsable, à prendre conscience des modifications qui sont normales, les envies qu'il ressent.
C'est
normal. On pourrait les canaliser pour qu'ils puissent avoir un comportement responsable.
Mm-hmm.
Voilà.
Alors, tous deux, je crois que vous avez suffisamment contact avec les jeunes, hein, je pense. Alors, ces jeunes-là, comment est-ce qu'ils perçoivent le risque, là, ce risque dont on parle? Comment est-ce qu'ils le perçoivent? Comment est-ce qu'ils le définissent quand ils sont avec vous, quand ils échangent avec vous?
En réalité, les jeunes, madame, savent même pas que c'est un risque. Ils savent même pas que c'est un risque, à tel point que même quand tu leur parles de ce risque, ils s'en foutent. Comme je disais tantôt, à leur âge actuel, en étant adolescent, c'est le risque qui les excite. Qui les stimule. Donc, ils savent même pas que c'est un risque. Donc, comme Dr Tailly le disait, c'est à nous, parents, c'est aux parents de pouvoir encadrer les enfants. Parce que l'adolescence, c'est une tranche c'est une partie de la vie qui est très difficile à gérer. Et tant que les parents n'auraient pas compris ça, vraiment, tout serait voué à l'échec.
Alors, vous avez parlé tantôt d'un club, hein,
oui,
d'un club, je crois,
santé.
Club santé. Alors, on peut dire que c'est une initiative. Alors, l'action même en elle-même, comment est-ce qu'elle se passe?
Donc, on regroupe les adolescents jeunes dans des écoles et c'est encadré avec les enseignants qui leur donnent des établissements même, qui leur donnent un certain nombre d'informations. Mais malheureusement, ce n'est pas tous les adolescents jeunes qui fréquentent ces clubs. Donc, il y a intérêt pour nous de faire la promotion de ce club-là, où l'enfant pourrait, en adhérant, en recevoir les bonnes informations sur la sexualité, les bonnes informations sur sa vie d'adolescent. Parce que la sexualité, ce n'est pas que le sexe.
Non.
Voilà, c'est tout un ensemble d'offres de services qui pourrait amener l'enfant à prendre des décisions responsables. Il a des adolescents jeunes qui aujourd'hui mettent en avant l'abstinence. Mais pourquoi mettre en avant l'abstinence? Il faut comprendre l'utilité de cette abstinence. Parce que les adolescents jeunes, à cause de leur immaturité au niveau cérébral, ils évaluent très mal le risque.
Oui.
Ils évaluent toujours à court terme. À court terme, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'éprouve? Donc, ils n'ont pas une réflexion assez poussée. Donc, du coup, il faudrait les emmener en mettant toutes les cartes à leur disposition pour qu'ils puissent prendre des décisions assez responsables. Voilà.
Vous avez un ajout, un additif?
Oui, je voulais dire aussi que les adolescents et jeunes de la Côte d'Ivoire ont des services qui leur sont dédiés.
D'accord.
En l'occurrence, les services de santé scolaire et universitaire que nous avons appelés SSU SAGE, qui sont installés sur tout l'étendue du territoire. C'est vrai que nous avons au jour d'aujourd'hui 118 SSU SAGE à travers tout le pays. C'est vrai que ce n'est pas dans toutes les villes, mais vraiment pas loin, à proximité. Et là-bas se trouvent des prestataires de santé, des médecins, des infirmiers, des sages-femmes, des aides-soignantes, qui sont formés à la SAGE, qui sont formés au comportement des adolescents et aussi qui travaillent pour la prévention, pour les prévenir du VIH et du SIDA également, des IST également. Donc, ils peuvent y aller prendre des conseils.
Alors là, c'est vrai que vous venez de parler de politique publique, hein, de façon générale, mais on souhaiterait avoir un exemple concret. Comment est-ce que se fait un échange avec, on va dire, les jeunes que vous recevez, par exemple? C'est quelqu'un qui est venu consulter, qui a eu un problème, ou comment ça se passe?
Bon, c'est toujours au cours d'une consultation, il va venir, il va te poser son problème. Si, par exemple, il te pose son problème, si c'est un cas d'IST, c'est une infection sexuellement transmissible, là, vraiment, tu es à l'aise, tu peux y aller tout de suite. Mais quel que soit même le motif de consultation, les prestataires de santé, de soins, qui sont dans les structures qui leur sont dédiées, ont l'obligation. C'est-à-dire, ça doit être un conseil de routine. C'est-à-dire, à chaque consultation, l'adolescent qui est en face de toi doit être sensibilisé sur les risques et sur les mesures, les dispositions, les précautions à prendre pour éviter le VIH.
Docteur?
Chaque opportunité d'échanger avec un enfant au sein des centres qui leur sont dédiés, c'est une aubaine pour nous. Donc, tout prestataire, comme je le disais, des centres dédiés aux adolescents jeunes sont formés à offrir le service. Il n'est pas uniquement en termes de prise en charge, mais surtout en termes de prévention. Voilà. Donc, il y a des adolescents jeunes qui se rendent dans les SSU par curiosité pour poser des questions. Et quand ils viennent, quand ils posent les questions, le prestataire le reçoit comme tout malade dans une certaine confidentialité, crée les conditions pour que l'adolescent soit à l'aise de s'exprimer. Et quand l'adolescent s'exprime, on lui apporte des éléments d'éclaircissement qui lui permettent demain de prendre de bonnes décisions. Voilà. Donc, je pense que les structures sont habilitées. C'est vrai que le chiffre, comparativement au nombre de villes, c'est encore petit. Mais néanmoins, je crois que l'effort gouvernemental est mis en place dans un élan d'accroissement de cette offre de services.
Alors, Alima Ouattara, quelque chose à dire?
Je voulais dire, en plus même des SSU SAGE, comme Dr Taï l'a dit, le gouvernement fait des efforts supplémentaires à tel point qu'aujourd'hui, on veut créer un espace des adolescents et jeunes dans toute structure sanitaire en Côte d'Ivoire. Vraiment, tout le monde a à pied d'œuvre pour que cette initiative-là puisse aboutir.
Alors, que savoir du dépistage pour ces jeunes-là qui nous écoutent? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir? Comment ça se fait?
Le VIH est une IST. Donc, si le VIH est une IST, avant, par exemple, on parlait de MST, maladie sexuellement transmissible. Là, c'est la personne qui porte la maladie. Mais on s'est rendu compte que je peux avoir le virus, mais ne pas être malade. Donc, en ce moment, on parle de personnes apparemment en bonne santé et apparemment saines. Donc, du coup, il est important de pouvoir faire le diagnostic. Donc, il faut comprendre que dans le cas du VIH, la maladie évolue en trois phases. Il y a la primo-infection qui dure sur trois mois. La seconde phase, où la POSI, où le malade soit présente des signes mineurs, voilà, et ou bien carrément il est asymptomatique. La phase de latence, qu'on appelle la phase de latence. Je vous informe que la phase de latence part de 3 mois à 10 ans. Donc, vous pouvez rencontrer un individu qui est en bonne santé en parente, mais qui a le virus dans son organisme. Ouais. Donc, il est important de pouvoir connaître son statut sérologique. Le dépistage, c'est juste une goutte de sang au bout du doigt qui est prélevée. On met sur une bandelette et vous faites la lecture avec le prestataire parce qu'il vous explique comment ça va se passer et vous-même, vous faites la lecture avec lui. Vous posez le diagnostic et puis vous êtes à l'aise. Il est important de connaître son statut sérologique concernant le VIH et même pour les autres IST. Il y a aussi des tests qui existent pour les IST. Donc, il faudrait le faire. Quand on s'amuse même à dire que c'est vrai, on a toujours dit dans la documentation de la revue littéraire que le VIH ne se transmet pas par la salive.
Oui.
Mais l'hépatite B, oui, se transmet par la salive. Donc là même, nous sommes en cours de conduire une étude sur une étude CAP, connaissance, aptitude pratique des adolescents jeunes vis-à-vis du VIH et des IST.
D'accord.
Donc je pense que les études, jusqu'à la fin de l'année, on pourra avoir le rapport de l'étude et puis on pourra être disséminé. Donc il y a des questions, par exemple, qu'on demande à l'adolescent jeune de savoir, est-ce qu'on peut contracter une IST au travers d'un baiser profond? Je vous assure que les résultats préliminaires que nous avons actuellement, c'est comme une alerte en termes de renforcement des capacités parce que l'adolescent, je ne sais pas que c'est un risque. Que embrasser au travers d'un, le simple embrasser au travers d'un baiser profond, on risque d'avoir une maladie. L'adolescent ne sait pas.
Est-ce que les parents même le savent aussi?
Ah!
Question.
Voilà. Donc, c'est pour dire qu'il faudrait... pour pouvoir aider les adolescents jeunes qui sont l'avenir de la société, de renforcer leurs capacités pour qu'ils prennent conscience. Il a envie, oui, c'est vrai, cette envie est là, mais si vous le confrontez cette envie au risque qu'il en prend, qu'il en court, je pense que l'adolescent est assez responsable et assez lucide pour faire des choix éclairés pour préserver sa santé.
Alors récemment, autour d'un atelier avec vous, on a parlé aussi du préservatif. Le préservatif qui n'est pas forcément, on va dire, accepté par ces jeunes-là assez facilement. Alors qu'est-ce que vous leur proposez? Qu'est-ce que vous leur dites concernant le préservatif?
Concrètement, en matière de prévention, comme je m'hazarde à toujours le dire, le préservatif est le fer de lance de la prévention. Toutes les stratégies qui sont développées en termes de prévention s'adossent sur le préservatif. Pourquoi? Parce que le préservatif nous permet de prévenir les infections sexuellement transmissibles, ainsi que le VIH et même les grossesses non désirées. Donc pour un adolescent jeune, la grossesse non désirée, c'est vraiment un problème pour lui. Parce que quand la grossesse survient, l'enfant est déboussolé. Donc pourquoi ne pas utiliser le préservatif qui permet de garantir? Donc pour ces adolescents jeunes, on leur démontre le bien fondé d'utiliser un préservatif. Les intérêts, qu'est-ce qu'on ne gagnerait? Parce que le préservatif en lui-même ne t'empêche pas d'avoir des rapports sexuels, mais te permet plutôt d'avoir des rapports sexuels responsables qui te permet de garantir ta santé. La santé, elle peut être physique, elle peut être émotionnelle. Parce que quand vous entendez qu'un adolescent jeune a engrossé
une
autre fille, il est moralement, il est abattu. Donc, ça permet de protéger aussi l'état psychologique de l'enfant. Donc, nous leur conseillons, mais pour les aider surtout à prendre ce genre de décision, c'est de mettre devant eux le risque d'avoir des rapports sexuels non protégés et les avantages d'avoir ces rapports sexuels protégés qui garantissent vraiment leur état de santé.
Alors, quel rôle jouent vraiment les antirétroviraux dans le traitement pour ces jeunes-là?
Les antirétroviraux, en termes de prévention, nous avons une stratégie qu'on appelait la PrEP.
D'accord.
Qu'on appelle la prophylaxie pré-exposition. Mais cette PrEP, elle s'adosse sur le préservatif.
C'est clair.
Comme je le dis. Ouais. Donc, toutes les stratégies existent. Toutes les stratégies existent pour pouvoir protéger les adolescents. Quiconque voudrait avoir des comportements responsables, on développe toutes les stratégies. Mais cependant, toutes ces stratégies s'adossent l'utilisation du préservatif. Bien sûr, le port correct. Parce que ça aussi, c'est un autre challenge. L'autre défi que nous avons en matière de préservatif, c'est la négociation. Comment est-ce que l'adolescent jeune pourrait négocier le port du préservatif? Cette population est assez vulnérable, surtout, comme après, pour un titre d'additif, c'est surtout le fait qu'il y ait des sexes intergénération. C'est surtout ça. Ce sont des adultes qui ont un certain niveau social, qui sont plus ou moins nantis, qui viennent voir l'adolescente jeune fille, qui n'a pas les ressources financières, mais qui a des envies. Donc, du coup, il y a un sexe transactionnel. Et là,
un échange de bons procédés.
Un échange de biens. Donc, ouais. Du coup, l'adolescent jeune qui n'a pas pris conscience qu'avoir des rapports sexuels avec un individu dont vous ne connaissez pas, oui. Vous ne savez pas le statut sérologique, mm-hmm. que ce soit par rapport au VIH, que ce soit par rapport aux IST, avoir ses rapports sexuels avec ce DD sans préservatif est un risque, elle va s'adonner. Donc, il est nécessaire pour nous de continuer d'intensifier. Et là, nous disons merci. Nous disons merci à Radio La Paix de nous avoir invités pour que nous puissions parler de cette problématique parce que c'est pour nous capital de pouvoir préserver la santé des adolescents jeunes. Mmh. Il faudrait qu'ils prennent conscience du risque qu'ils encourent afin de pouvoir avoir des comportements responsables.
Alors, quels sont les différents types de préservatifs que vous proposez aujourd'hui aux jeunes?
Il y en a quatre types. Nous avons le préservatif masculin, le préservatif féminin, le carré de latex et le doigtier. En d'autres termes, pour tous les comportements ou les jeux sexuels que la population pourrait avoir, on a trouvé un préservatif pour. Voilà.
Est-ce que ce n'est pas une incitation à faire un peu ce qu'on a envie de faire?
Incitation, si on n'avait pas un nombre élevé de grossesses en milieu scolaire, si on n'avait pas un nombre élevé de nouvelles infections, si on n'avait pas un nombre élevé des infections sexuellement transmissibles, je crois qu'en termes de données, nous sommes autour de 300 000 par cas l'année, et dont 50% provient des adolescents jeunes. Donc,
âgés
50% vient des adolescents jeunes. Donc, vu tous ces facteurs, est-ce qu'on peut dire que c'est une incitation? Ils y sont déjà. Tout ce qu'on peut faire, c'est de leur offrir des moyens et des services pour pouvoir préserver leur état de santé. C'est tout. Donc, on ne peut pas changer le comportement des uns et des autres, mais ils pourraient avoir de ces mêmes comportements, mais de façon responsable. Et c'est ce qui va préserver leur état de santé.
Quelle est la garantie avec le préservatif?
Préservatif, selon la littérature, l'efficacité est de 85% lorsqu'il n'est pas utilisé correctement. Mais quand il est utilisé correctement, dans le cas du port correct et systématique, il remonte à 100%. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux situations? C'est que dans le port correct, il y a la méthodologie du port plus l'hygiène qui va avec, qu'on associe au port, qui optimise l'offre de service jusqu'à 100%. Mais sinon, le préservatif en lui seul, quand vous l'utilisez, vous êtes protégé à 85%. Mmh. Que vous ayez bien porté ou mal porté, c'est 85%. Donc, il y a encore 15% de risque, de chance que vous ayez, vous pouvez contracter soit une IST, une infection. Donc, quand vous associez l'hygiène au port correct, les chiffres remontent à 100%.
Alors, vu le taux élevé, on va dire, de contamination ou le taux élevé de jeunes atteints de cette maladie ou de ces maladies, est-ce qu'aujourd'hui, l'on doit rendre le dépistage obligatoire?
Oh, c'est une très belle question. C'est une très belle question. Mais moi, je prendrais la question dans l'autre sens.
D'accord.
Si on sensibilise bien la population sur la prise de risque qu'elle prend, je pense que le dépistage sera volontaire.
Volontaire, c'est ça.
Le dépistage sera volontaire. Si on prend
obligatoire, mais volontaire.
Volontaire. Tu l'as sensibilisé, il a ouvert la VAR de sa vie, il a vu le nombre de fois qu'il a pris le risque, il jugera opportun de se faire dépister pour savoir est-ce que le risque que j'ai pris, je n'ai pas chopé une maladie en cours de route. Donc, moi, je prendrais la question dans l'autre sens. Mmh. Et c'est pourquoi, jusqu'à présent, on n'est pas pour encore que le dépistage soit obligatoire. Mais il soit volontaire. Mais pour que la volonté vienne, il faut qu'on perçoive le risque. Pour percevoir le risque, c'est au travers de la sensibilisation.
Alors, Alima Ouattara, est-ce que les jeunes aujourd'hui, on va dire, sont réceptifs à l'abstinence? Ce mot-ci.
Wow. On a tous ri ensemble.
Oui.
Ce serait notre souhait. On aurait voulu qu'il soit réceptif à l'abstinence. Mais aujourd'hui, on ne peut pas, avec tout ce qui se passe dans les têtes et tout ce qui entoure la chose, avec l'Internet, le développement des réseaux sociaux, on ne peut vraiment pas parler d'abstinence au niveau des jeunes. Mais comme Dr Taï l'a dit, c'est la sensibilisation. Puisque quoi qu'il en soit, ils vont s'adonner à la chose. Donc, il faut les recadrer par la sensibilisation en leur montrant les inconvénients des actes qu'ils posent, des risques qu'ils prennent, pour qu'eux-mêmes, ils acceptent volontairement de se faire dépister ou bien de limiter les risques. Sinon, j'étais à un atelier tout récemment, on avait fait un pré-test. Celui qui modérait l'activité, on a posé une question que l'abstinence serait le premier moyen. L'abstinence serait le premier moyen pour éviter le VIH. Il a dit oui. Ou bien l'abstinence devait être obligatoire, il a dit oui. Mais après, tout le monde a dit non, l'abstinence ne peut pas être obligatoire de nos jours. Donc, on ne peut pas parler d'abstinence obligatoire chez les jeunes.
Docteur Taï.
L'abstinence, c'est vraiment l'idéal. Oui. Comme Madame Ouattara le disait, c'est vraiment l'idéal. Mais de façon pratique aujourd'hui.
C'est difficile.
C'est assez complexe. Pourquoi ? Parce que le centre des désirs, comme elle a dit, est mature avant le centre des décisions.
C'est ça.
Donc, l'enfant a des impulsions qu'il n'arrive pas à
contrôler.
À contrôler, un.
Et exprimer.
À exprimer, deux. Mais à savoir est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. Parce que le centre de son cerveau capable de faire censure n'est pas encore mature. Donc, plus vous vous opposez, plus il a de l'opposition en face de lui, plus il a envie
de les affronter.
Ouais. La preuve en est qu'on a, dans notre vie, je sais que vous avez croisé des adolescentes jeunes qui ont sauté des clôtures.
Ah oui, ça.
Qui ont sauté des clôtures. Mais pourquoi ? D'où vient cette énergie pour pouvoir jusqu'à sauter des clôtures ?
D'abord penser et pouvoir
penser
agir.
Et pouvoir agir. Parce que tout simplement, elles font confiance à leur impulsion. Donc, comme l'enfant fait confiance à ses impulsions, et ses impulsions sont guidées par le flux hormonal et les informations qui glanent ça et là, donc on se dit, si on lui donne les bonnes informations, il pourra prendre de bonnes décisions. Parce que plus vous allez à l'encontre des pulsions de l'adolescent jeune, plus il a envie de découvrir ce que vous l'empêchez de voir. Ça, c'est logique et c'est clair pour eux. Donc, on doit militer de tous nos efforts pour diffuser l'information, pour que les adolescents jeunes comprennent que dehors est risqué parce que le VIH, les IST ne sont pas écrits sur le front. Et vous pouvez être en face d'une personne en bonne santé, en parente, mais qui héberge peut-être depuis 10 ans le virus dans son organisme. Prenons même les infections sexuellement transmissibles. C'est, je pourrais dire, entre griffes, gono qui a gâté son nom. Parce que quand vous avez chopé un gonocoque, tout de suite, c'est les brûlures mixtionnaires qui s'installent. Mais les autres, quand on prend les autres germes, chlamydia, mais il n'y a aucun signe. Le patient, la jeune fille ou bien l'adolescent jeune, n'a aucun signe. Mais c'est quand il va avec sa partenaire que les signes apparaissent. Vous comprenez ? Donc, c'est pour dire qu'il est nécessaire. Et même quand on parle de le papillomavirus, qui est responsable du cancer du col de l'utérus. Mais c'est une maladie sexuellement transmissible. Donc, vous voyez que pour pouvoir mettre fin, pour prévenir même le cancer, c'est encore, je pourrais dire, encore le préservatif. Encore le préservatif.
Sensibilisation. Voilà, on va ouvrir une fenêtre justement sur la question, le cancer, encore le préservatif. Pourquoi ?
Le cancer du col est dû au papillomavirus. Le papillomavirus est une infection sexuellement transmissible. Donc, en utilisant le préservatif, du coup, vous êtes protégé. Donc, lors des rapports sexuels, la matière, le latex qui fait barrière, du coup, vous n'entrez pas en contact. Et donc, ça permet de sauver une vie. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on pourrait dire dans la matière. Dans tous les cas, le cancer en lui-même, pour le traiter, c'est assez complexe. Donc, on milite surtout pour la prévention. Et on prévient contre quoi ? Contre l'infection par rapport au virus. L'infection à l'HPV, le papillomavirus. Donc, pour prévenir, c'est d'avoir des comportements responsables qui rejoignent encore la même thématique, les préservatifs. Je pourrais dire, on dit pas aux on n'est pas en train de dire aux adolescents jeunes de ne pas avoir, mais de les avoir de façon responsable pour ne pas demain mettre en jeu, hypothéquer son avenir avec une maladie.
Quels ont été les obstacles spécifiques, on va dire, à l'accès des jeunes aux outils d'information pour aujourd'hui décider de pouvoir parler véritablement avec eux, faire cette proximité-là?
Oui, d'entrée de jeu, j'ai dit que la tranche d'âge, elle est de 15 à 24 ans, certes, mais les individus à l'intérieur de cette tranche-là évoluent.
Je remonte un peu plus quand je te pose la question.
D'accord.
Parents jeunes, enfants jeunes, qu'est-ce qui a été le blocage? À quel niveau ça a commencé? Parce que tout à l'heure, on a dit que c'est vrai que les jeunes ne sont pas réceptifs, mais le parent, aujourd'hui même en lui-même, ne sait peut-être pas certaines informations qu'il puisse communiquer avec son enfant.
Oui.
Il va falloir qu'on aille peut-être vers l'homme de santé, le spécialiste, l'expert que vous êtes, pour avoir des informations. Mais le parent lui-même ne sait pas grand-chose. Alors, qu'est-ce qui a été ce blocage?
C'est la culture. Dans la culture africaine, spécifiquement ivoirienne, on ne parle pas du sexe. On ne parle pas du sexe aux enfants. On ne parle pas de sexe aux enfants. Et même quand la jeune fille commence à avoir ses premières règles, on lui dit tout simplement, tu es devenue femme. C'est tout. Comme si avant, elle n'était pas femme. Ouais. On dit, tu es devenue femme. Et c'est la seule information qu'on lui donne. Comment elle va gérer même l'hygiène, l'hygiène autour des menstrues? À peine quand la maman vraiment est impliquée, quand elle a du temps, les informations ne sont vraiment pas complètes. Parce qu'elle-même aussi, elle n'a pas reçu de façon complète.
C'est ça.
Et qu'elle a appris sur le tas. C'est pourquoi je salue encore le programme national de PNSU pour tous ces efforts qui militent en l'endroit des adolescents jeunes pour les informations portant sur la sexualité. Parce que dans la sexualité, de façon générale, ce n'est pas que du sexe, mais il y a tout l'hygiène qui peut porter autour de ce.
On espère pouvoir avoir une émission bientôt sur justement les menstrues.
Il n'y a pas de souci.
D'accord. J'ai profité pour demander à l'antenne, tous les auditeurs vous entendent.
Nous sommes là, il n'y a pas de souci.
D'accord. Alors, est-ce que, on va dire, la COVID-19 a eu un impact négatif sur toute cette machine qui a été mise autour du VIH, que ce soit la sensibilisation, le traitement, les apports des partenaires et tout ça?
Je pense que oui, on peut dire ainsi. La COVID-19 quand même a eu un impact négatif, puisque c'était une pandémie. Donc, tout le monde était braqué sur la COVID, à tel point que nous avons négligé peut-être les autres pathologies. Tout le monde, comme c'était la maladie qui faisait ravage, donc on a mis un peu au tiroir les autres. On courait plus pour sauver des vies. Puisque comme Dr Taï l'a dit, tout ça c'est dû à des virus, mais le VIH, lui, il est en latence. Je lui ai dit, son virus, il est doux. Il peut rester là de 3 mois jusqu'à 10 ans avant de se manifester si tu n'es pas sous traitement. Donc, on peut dire ainsi, la COVID-19, quand même, il est pour quelque chose.
Docteur?
Moi, je pense.
Je pourrais dire que peut-être toutes les interventions de sensibilisation, tous les messages de sensibilisation en matière de COVID ont plus ou moins étouffé. Les interventions concernant les IST, comme le VIH, parce que tout simplement c'était quelque chose de nouveau.
Oui.
C'était assez mondial. Et puis ça a eu beaucoup d'impact en termes de bruit. Donc du coup, ça a un peu étouffé toutes les autres pandémies. Aujourd'hui, cette épidémie est plus ou moins derrière nous. Mais là, on est face à notre réalité.
Ah, c'est clair.
Avec les rebonds.
Oui.
Avec les rebonds, c'est pourquoi. Je réitère encore mes encouragements et mes salutations à Radio de la Paix, tout simplement parce que c'est une très belle initiative qui va permettre de booster en termes de sensibilisation, booster, parce que cette radio est écoutée par une bonne frange de la population et on espère que nos messages arriveront dans les oreilles des adolescents jeunes qui pourront avoir des comportements responsables.
On l'espère, ça ne sera pas la conclusion parce que c'est comme ça. La conclusion.
C'est ça.
Alors, la dernière question, quels sont les projets ou les programmes à venir pour mieux protéger ces jeunes-là aujourd'hui en Côte d'Ivoire et c'est sur l'ensemble du territoire, même quand on sait que c'est Abidjan qui est l'épicentre.
Les projets qui sont d'actualité, bien sûr, vous voulez les défis auxquels nous sommes confrontés actuellement, nous avons une baisse de la prévalence.
D'accord.
Nous avons une baisse des nouvelles infections. Mais le nombre, quand même, en termes de nouvelles infections, demeure toujours élevé.
C'est ça.
Et quand on voit l'analyse des tranches d'âge concernées, c'est surtout les adolescents jeunes. Vous comprenez? Donc, on a besoin, pour pouvoir mettre fin à l'épidémie, de mener beaucoup d'interventions de prévention de cette tranche d'âge-là pour que demain, elle soit préservée.
C'est ça.
Voilà. Aujourd'hui, on ne meurt plus du VIH. D'accord? Les IST, on n'en met pratiquement pas. On les traite. D'accord? Mais il faudrait mener les interventions pour ne pas qu'un adolescent jeune qui n'a rien demandé, sous l'effet de cette pollution naturelle, puisse s'exposer à avoir le VIH, exposé au VIH, ou bien une infection sexuellement transmissible et qui pourrait lui laisser des séquelles indéniables. Voilà. Donc, c'est ce que je pourrais dire.
Madame Halima Ouattara.
Oui, également, c'est la même chose parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, nous menons des activités de sensibilisation à travers peut-être un peu tout le pays mm-hmm. concernant ces ados-là, souvent couplés avec des offres de services SSRP, PF. Et quand même, nous arrivons souvent sur les sites, on sensibilise en présence des parents.
Mm-hmm.
Nous, au PNSU, c'est ce qu'on aurait souhaité maintenant, on invite les parents. Parce que tant que le parent, comme on le disait tantôt, il n'a pas compris, il ne pourra pas faire comprendre
partager,
à son partager
sûr.
Avec
on
l'enfant.
On ne partage que ce qu'on a reçu.
Alors que c'est ce que nous recevons en bas comme éducation, c'est ce qui nous suit après.
Mm-hmm.
Donc c'est la sensibilisation, accompagner des offres de services, tout et tout, pour limiter les risques afin qu'ils ne soient pas contaminés.
Alors, que retenir, Moutfa, en quelques minutes, pour chacun d'entre vous, docteur Taï, madame Ouattara Alimata.
Mot de fin aujourd'hui, moi, je dis d'abord merci à la radio La Paix pour cette émission. Parce que vous nous donnez une occasion de parler aux jeunes, aux adolescents. Je lance aussi un appel aux adolescents. Je leur dis que nos services de santé scolaire sont disponibles, le personnel est disponible et nous avons plusieurs activités de prévention. Parce que le VIH, comme Dr Taï le disait, c'est la prévention d'abord.
C'est ça.
Parce que tant qu'on n'a pas prévenu, une fois ça s'installe, c'est le virus, il est là. Même quand tu as plus les antirétrovirus, mais psychologiquement, il y a des gens qui sont atteints. Donc, qu'ils fréquentent les centres. Aux parents également, de dire à leurs enfants de fréquenter les centres. Les prestataires sont là, ils sont qualifiés, ils sont formés, ils ont reçu tout. Pour pouvoir sensibiliser les jeunes, pour pouvoir les prendre en charge aussi. Le PNSU Sage a une application que nous avons appelée e-santé jeunes, une application où sont inscrits des animateurs. Donc les adolescents, même quand ils ne peuvent pas se déplacer, mais ça marche bien sûr avec la connexion Internet.
Mm-hmm.
Comme je sais qu'ils ont toujours la connexion Internet, ils ont plus d'Internet que nous-mêmes les parents. Donc, ils peuvent télécharger l'application et poser les problèmes de santé là-dessus.
On va reprendre ?
On va répondre. On va leur répondre.
Très bien.
En plus, maintenant, on installe des espaces dans nos SSU Sage où les jeunes peuvent venir là poser tous leurs problèmes de santé.
Et on rappelle que ça reste confidentiel.
Oui, ça reste toujours confidentiel. L'agent de santé, il garde la confidentialité toujours.
Merci infiniment à vous pour ce temps d'antenne et puis à très bientôt.
C'était... Sujet de discussion.